France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, nous accueillons aujourd'hui la pianiste Brigitte Unguerer que Gaëlle Le Gallic avait reçue à son micro pour l'émission Mémoire retrouvée en septembre 2003. Dans le premier opus qui va suivre, Brigitte Unguerer évoque le début de son parcours musical qui l'a conduit de sa Tunisie natale à la Russie et aussi sa rencontre avec le maestro Karajan qui a marqué le lancement de sa carrière internationale.
Mémoire retrouvée, portrait d'artiste, Brigitte Unguerer. Février, carnaval, extrait des saisons de Tchaïkovski sous les doigts de Brigitte Unguerer. Elle commence ses études musicales à l'âge de 4 ans. À 6 ans, elle rencontre l'un des plus éminents professeurs de piano de l'époque, Lucette Descaves. À 10 ans, elle donne le concerto en la majeure de Mozart au Théâtre des Champs-Élysées. Une année plus tard, elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dont elle sort à 15 ans avec ses prix en poche. Et à 16 ans, elle est lauréate du concours Marguerite Long, concours qui lui ouvrira les portes du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, où elle rencontrera son maître, avec une majuscule. Enfant prodige ? Non, répond Brigitte Unguerer. Un enfant prodige donne au moins 20 concerts par an. Heureusement, ça n'était pas mon cas. Disons que j'avais des facilités. Ce qu'elle préfère, apprendre. Sa devise, toujours plus haut, essayer de se dépasser. Sa bête noire, le trac, obsessionnel depuis le départ. Elle se consolera à peine d'une réflexion de Rudolf Serkin qu'elle était allée saluer à l'issue d'un concert et à qui elle avait demandé s'il avait toujours autant le trac après toutes ces années. « N'ayez aucune illusion », lui avait répondu le célèbre pianiste, « ça ne passera jamais ». Et quand tout cela devient trop lourd, eh bien Brigitte Unguerer se plante devant son ordinateur et fait des réussites, mais bientôt, taraudée par la culpabilité, elle se jette sur son clavier de manière boulimique. Vous avez dit passionnée ? d'autre chose, Brigitte, que ce soit clair. On dit Angerer ou Angerer?
Bon, c'est...
Mieux que ce soit à vous qu'on pose la question.
Oui, lorsque j'étais au conservatoire, je m'appelais Angerer. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à jouer en Allemagne, et puis en Hollande, et puis dans d'autres pays, les gens m'ont appelé Angerer. Et on faisait pas la liaison entre les deux personnes, en fait. Donc j'ai décidé à un beau moment qu'il valait mieux avoir la véritable prononciation, puisque c'est un nom d'origine autrichienne. Et la véritable prononciation, c'est Angerer.
Voilà. Alors, vous êtes né en Tunisie, vous disiez que votre culture était française, votre âme russe et votre corps du Sud. Comment vous faites l'harmonie entre ces trois origines, on va dire?
C'est difficile. De toute façon, est-ce que chacun de nous arrive à avoir une véritable harmonie avec soi-même? C'est la chose quand même la plus difficile. Mais je pense que c'est une richesse d'avoir des cultures différentes, des envies différentes. Et ce sont des bonheurs successifs. C'est-à-dire quand je me retrouve par hasard en Tunisie, c'est merveilleux. Je me sens chez moi, je me sens heureux, je me sens légère. Les odeurs, les couleurs, tout me rend heureuse. Lorsque je suis en Russie, je me sens chez moi parce que c'est mon âme. C'est ça. Lorsque je suis en France, je me dis quel beau pays, c'est magnifique. Et puis c'est vrai que maintenant que j'ai des enfants en France, que nous vivons en France, je me sens plus des racines françaises que je ne les ai jamais senties, parce que c'est vrai que c'était difficile. Petite fille, je suis arrivée à 9 ans de Tunisie en France, donc c'était un pays étranger. Je suis partie à 17 ans et demi en Russie, je suis restée 9 ans. Et en fait, quand je suis revenue, la France était le pays que je connaissais le moins et où j'avais le moins d'atomes crochus, le moins d'amis, le moins... C'était un moment difficile, le retour de Russie, à cause de ça. Et en fait, non, toutes ces cultures, ces habitudes différentes, je pense que ce sont des richesses. C'est bien de... J'adore parler plein de langues, par exemple. Je trouve que la vie est trop courte, parce que j'aurais aimé parler encore 4, 5, 6 langues. Oui.
La valse sentimentale opus 51 numéro 6 de Tchaïkovski, un compositeur dont nous reparlerons bien sûr, interprétée par Brigitte Angerer. Alors retour aux sources, à l'enfance, aux souvenirs les plus lointains avec la musique, Brigitte Angerer. Petite fille, vous étiez entourée d'harmonie musicale ?
Pas entourée de musique, puisque ma famille ne faisait pas de musique, que je vivais dans un pays où la musique occidentale n'existait pas vraiment ou très peu.
L'opéra de Tunis marchait bien ?
Je sais pas, moi je me souviens qu'on m'emmenait à des concerts, mes parents m'emmenaient à des concerts symphoniques, comme ça, une fois par mois, probablement, enfin, je sais pas, parce que je sais que depuis toute petite, j'avais 6 ans, 7 ans, je me disais, le bonheur total, ça doit être d'être avec un piano au milieu de ce grand orchestre. Enfin,
mais qu'est-ce qui vous donnait cette image?
Ah, je sais pas, c'était le, bon, d'abord, j'étais probablement déjà sensible à la musique, j'adorais le piano. Et j'avais vu, paraît-il, chez des personnes de ma famille, un petit jouet piano. Et je passais mes journées avec ça depuis l'âge de 3 ans. J'ai jamais tellement joué avec d'autres choses que ça. Donc ça a donné l'idée à ma maman de m'emmener voir un professeur et de me faire donner des cours de piano.
Voilà. Vos frères et sœurs ne jouaient pas du tout de musique ?
Non, mon frère ensuite s'est mis à faire... Mes frères et sœurs ont tous fait du piano, mais ont abandonné au bout de 2 ans ou 3 ans, enfin, parce que ça les intéressait moins.
Donc il y avait un piano à la maison ?
Ensuite, on a acheté un piano à la maison pour moi. Donc oui. Tout ça était par rapport à moi. Et donc je travaillais avec des professeurs en Tunisie, des répétitrices. Et l'une d'elles, la première, au bout de... un an et demi, apparaît-il, dit à ma maman, écoutez, je me sens un peu dépassée, il faudrait que vous essayiez de demander conseil à d'autres gens, parce que je sais plus trop, ce qui était gentil quand même. Oui.
Et après, donc, il a fallu aller plus haut.
Oui. Ma maman a lu dans le journal Elle, à l'époque, un article où on parlait d'un professeur de piano à Paris qui s'appelait Lucette Descaves. Et maman lui a envoyé une lettre en lui disant, voyez, j'ai une petite fille qui a 6 ans qui joue tel et tel morceau. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Et Madame Descaves nous a écrit très gentiment, nous a répondu, nous a dit venez me voir à Paris et j'écouterai la petite fille, et je vous dirai. Et donc on est venu avec maman, on a pris l'avion, on est venu à Paris et on faisait ça 2 fois par an pour venir prendre mes cours de piano et un programme de travail pour 6 mois ou 4-5 mois, enfin, et je revenais ensuite ici.
Et entre-temps, personne ne...
Et entre-temps, j'avais... Si, j'avais des répétitrices, des professeurs en Tunisie que je voyais 2 fois par semaine. Et voilà. Et en même temps, j'allais à l'école, dans une école de sœurs, où je vivais dans un monde très protégé, mais merveilleux. Et à l'âge de 9 ans, donc, il y a eu les événements en Tunisie qui étaient assez inquiétants par rapport à nous. Mmh. Et on savait pas très bien ce qu'on devait faire, rester, attendre que ça passe ou partir. Et puis finalement, on est parti comme beaucoup d'autres gens à ce moment-là. Et on est parti aussi, une des raisons, en se disant qu'il fallait de toute façon entrer au conservatoire. Oui. Voilà.
Thank you.
1979, un document que nous a confié Brigitte Angerer, enregistré lors de son séjour à Moscou. C'était un extrait des variations sur le nom d'Abeg, opus 1 de Robert Schumann. Brigitte Angerer, nous parlerons bien sûr dans ce portrait que nous vous consacrons des rencontres marquantes dans votre vie artistique, qu'il s'agisse de grands pédagogues comme vous en avez rencontré en Russie ou de chefs d'orchestre qui ont participé au lancement international de votre carrière. Mais prenons là encore les choses par ordre d'entrée en scène. L'un de vos professeurs au Conservatoire de Paris, Lucette Descaves, quelle était la base de son enseignement ?
Ce qui était important pour elle, c'était la nature... La nature, la sincérité, comme ça, l'expression de chacun. Et c'est vrai que lorsqu'on voit tous ces élèves qui ont tous, enfin, il y en a beaucoup qui ont fait une magnifique carrière, qui sont restés dans le monde musical, qui sont devenus des pianistes concertistes. C'est vrai que chacun a gardé sa personnalité. Et ça, je trouve ça très très bien pour un professeur. Je crois qu'elle savait nous donner confiance en nous, qu'elle savait nous aider à nous exprimer comme ça et à exprimer ce qu'on avait à l'intérieur de soi. Alors peut-être que, sûrement d'ailleurs, que derrière ça, il manquait une rigueur et une véritable connaissance des choses, parce qu'on peut pas être un interprète et se baser seulement sur son instinct. Il faut les deux choses. Il faut la connaissance. Pourquoi j'ai envie de faire un ralenti ici? Pourquoi j'ai envie d'accélérer? Pourquoi j'ai envie de jouer plus fort? Il faut comprendre ça par rapport à la forme de l'œuvre, par rapport au style du compositeur, par rapport aux tonalités, par rapport à tout ça. Et ça, ce sont des choses que j'ai appris plus tard en Russie.
Oui.
Jusqu'à l'âge de 17 ans, je travaillais sur l'instinct. Et d'ailleurs, je travaillais peu. Parce que finalement, oui, je travaillais pas assez, parce que je travaillais un petit peu quand on me disait, oh, mais alors, il faut que tu connaisses tes morceaux. J'avais pas conscience de ce que je faisais. Ce que j'aimais, c'était par exemple à la maison, ouvrir des partitions. Je dépensais tout mon argent pour acheter des partitions et lire. Découvrir la musique, les petites pièces de Tchaïkovski, de Debussy, de Ravel, de Chopin, de Beethoven, que je connaissais pas ou que je jouais pas, puisqu'on joue évidemment bon une œuvre ou deux ou trois pendant l'espace de 2 mois, et je trouvais ça trop peu, j'avais envie d'en connaître plein d'autres. Donc ça, j'adorais ça, lire la musique, déchiffrer, connaître toutes ces choses. Mais le vrai travail, c'est-à-dire le vrai amour du travail, je l'ai découvert en Russie. Et là, il m'est arrivé de passer 9 heures, 10 heures par jour, sans personne pour me dire tu dois travailler. C'était moi qui voulais, c'était moi qui étais poussé par un véritable besoin intérieur, une espèce de soif comme ça, de toujours d'aller plus loin. Et puis après, par rapport à l'école Neuhaus, quand ils vous expliquaient qu'il n'y avait pas de problème technique, qu'il y avait simplement un problème d'émotion, de compréhension, et que si on avait ça, si on avait la direction musicale, on trouvait la manière de le réussir d'une manière techniquement. Voilà, mais c'est sûr que je pourrais avoir 10 fois plus de technique ou 100 fois plus, on n'en a jamais assez. Puis je crois qu'il y a des gens que c'est pareil, il y a des gens qui naissent avec des facilités techniques énormissimes, il y en a d'autres qui les ont. C'est vrai que je dois avoir des facilités techniques, c'est sûr, mais sûrement moins que certains et peut-être plus que d'autres, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'arriver, grâce à sa propre technique, à exprimer ce qu'on veut exprimer, c'est tout. En avoir plus que ça, c'est pas nécessaire. En avoir moins, c'est embêtant. Voilà. Mais il faut laisser chacun creuser son sillon, quand même.
Et votre sillon, à l'époque, de Lucette Descaves,
c'était toujours un peu la même chose. C'est-à-dire la musique russe, la musique romantique. Aussi la musique française. J'adore Ravel, Debussy. Mais c'est vrai que ce qui me touche le plus, ça a toujours été... Schumann, Brahms, Beethoven, énormément. Chopin, mais Chopin est venu plus tard. Dans Chopin, j'avais au départ une certaine appréhension à le jouer. C'est venu plus tard aussi en Russie. Et la musique russe que j'adorais déjà depuis l'âge de 11 ans, 12 ans. Je rêvais de parler cette langue, je rêvais d'être dans ce monde-là. Thank you.
Brigitte Angerer avec l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, dirigé par Yuri Temirkanov dans le troisième mouvement du concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski. Brigitte Angerer, en cours de formation, il y a eu bien sûr les passages obligés, comme par exemple les concours, le Marguerite Long. C'est un concours qui vous a ouvert des portes ?
Non, pas vraiment. La porte qui a été ouverte par ce concours, c'est qu'il y avait le membre du jury russe, Malinine, qui m'a entendu et qui avait dit à quelqu'un « Oh, cette petite, j'aimerais bien l'inviter au conservatoire de Moscou. » Voilà. Et comme c'était mon rêve à moi, que c'était le reflet de ce que j'espérais, mes parents sont allés le voir et lui ont dit « Voilà, est-ce que c'est vrai que vous aimeriez emmener notre fille en Russie ? On serait d'accord dans quelles conditions, comment ? Enfin, ils étaient un peu inquiets quand même.
Oui, vous aviez 15-16 ans à ce moment-là ?
16 ans. Ils étaient un petit peu inquiets, et puis... Bon, c'est vrai que la Russie communiste était quand même assez effrayante à l'époque. Donc tout ça était un peu compliqué. Alors ils lui ont demandé d'ailleurs, est-ce que si elle vient travailler au conservatoire de Moscou, est-ce que vous allez l'obliger à... avoir des idées politiques spécifiques, enfin bon. Non, 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 on touchera pas à ça, elle vient que pour la musique. Nous, on ne s'occupe pas de politique, on s'occupe de musique, ce qui était vrai d'ailleurs. Mais en même temps, j'étais seule parce que j'avais plus le côté rassurant comme ça de d'être avec mes parents qui s'occupaient de tout et qui me surprotégeaient. Mais d'un autre côté, c'était aussi merveilleux parce que j'étais avec plein de jeunes de mon âge et que on pouvait passer des soirées entières à écouter de la musique, à discuter. On allait au concert ensemble, on revenait des concerts, on discutait pendant 2 heures sur l'interprétation de tel ou tel pianiste ou violoniste. Enfin, on travaillait tous ensemble puisqu'on avait des studios dans le sous-sol avec des pianos. Donc c'était en même temps très très riche et très chaleureux.
Et votre professeur à ce moment-là était Malinine ?
Non, je devais arriver donc chez Malinine puisque c'est lui qui m'a invité. Mais finalement, un pianiste russe qui s'appelait Vladimir Kraniev, qui venait de gagner le premier prix Tchaïkovski et qui m'avait entendu, m'a dit je vais t'emmener voir mon professeur parce que c'est le plus merveilleux des musiciens. Il faut que tu travailles avec lui. Et donc il m'a emmené auditionner pour Neuhaus. Bon, d'abord, il faut dire que Malinine, Neuhaus, Naumov étaient les 3 élèves de Heinrich Neuhaus et les 3 assistants de Heinrich Neuhaus pendant des années, jusqu'à la mort de Heinrich Neuhaus. Donc c'était la même famille, c'était comme 3 frères. Donc que je quitte l'un pour aller chez l'autre, évidemment, ça lui faisait de la peine, mais je restais dans la même famille. Et je dois dire que Malinine, tout au long de mes années d'études, je l'ai retrouvé en tant que membre du jury. Plus tard, au concours Tchaïkovski, je l'ai retrouvé dans des examens au conservatoire. Il s'est toujours montré d'une noblesse et d'une grandeur exceptionnelle.
Qu'est-ce qu'il a dit, Neuhaus, quand vous êtes arrivé ? Comment ça s'est passé ? J'imagine que ce sont des moments qui restent gravés à vie.
Bah d'abord, je ne comprenais pas suffisamment le russe pour savoir ce qu'il allait dire. Et il m'avait dit, bon, si vous réussissez l'examen, à ce moment-là, je vous prends dans ma classe. Et il parlait très peu. Il parlait quand même, oui, au leçon, il parlait énormément. Il parlait du compositeur, il parlait du style, il parlait de littérature, il parlait d'architecture. Il essayait de nous donner des images qui nous donneraient, d'éveiller notre imaginaire pour qu'on comprenne exactement le langage de cette phrase. Il pouvait nous parler énormément de timbres orchestraux. Il pouvait, par exemple, quand j'ai travaillé le concerto Tchaïkovski, que je venais chez lui travailler, il me demandait de jouer avec lui ensuite des symphonies de Tchaïkovski à 4 mains, ou d'écouter des symphonies par Furtwängler ou par Mravinsky, juste pour comprendre justement ce compositeur, ou d'écouter des opéras, ou d'écouter... Ça, c'était une partie. Et ou sinon, il pouvait aussi bien passer... Le rythme était très important pour lui, la pulsation, la vie, qui était bien plus importante que mes désirs personnels, par exemple, de de ralentir, de trouver cette phrase magnifique. Ouais. Il avait un discours souvent un petit peu misogyne. Alors, oui, les femmes, c'est toujours comme ça. Elles peuvent rester un quart d'heure parce qu'elles trouvent une phrase belle. C'est ridicule, on perd son temps. Il y a la pulsation de l'œuf, c'est beaucoup plus important que vos émotions. Donc ça, c'était... Il pouvait être assez dur avec les femmes en général dans la classe, c'était ouf. Donc on savait jamais de toute façon à quelle sauce il allait nous manger. Il pouvait être adorable, il pouvait être même tellement adorable que maman qui me rendait visite, je lui disais, ah ben viens la semaine prochaine, tu vas voir, il est tellement content en ce moment, il trouve que j'ai joué ça tellement bien. Alors maman venait avec l'attaché culturel de l'ambassade de France, ce qui était important pour moi parce que comme je voulais rester une année de plus, il fallait quand même que les choses se passent bien. Et il choisissait juste ce moment pour m'écrabouiller, m'arrêter toutes les deux notes, me dire que c'était nul, qu'il n'y avait pas ni le rythme, ni le son, ni l'expression, piquer une rage absolument dingue. Et moi, je me sentais mais ridicule, écrabouillé. Et la fois d'après, il était délicieux, merveilleux. Ah, mais voilà, mais alors ça, c'était comme ça. Mais rien n'avait d'importance pour lui, sinon la raison musicale. Et donc ça, c'était une espèce d'exigence comme ça, d'une force extraordinaire, mais en même temps, parfois difficile à supporter pour les jeunes qui étaient dans cette classe. Il y en avait qui partaient de la classe, d'ailleurs, qui étaient... C'était trop de pression parfois, c'était trop dur à supporter, c'était trop...
Trop en dents de scie,
et comme il était lui-même fragile et angoissé, par exemple, la veille de ma première épreuve au concours de Tchaïkovski, il m'a demandé de venir chez lui pour lui jouer tout le programme. Je voulais pas y aller parce que je savais que c'était qu'il pouvait me
déstabiliser.
Oui. Et effectivement, il m'a cassé. Rien n'allait plus. Tout ce qui allait bien une semaine avant, rien n'allait plus. Tout était horrible, tout était à refaire. Éventuellement, si je voulais, le lendemain, je pouvais aller jouer dans un concours pour enfants de jardin d'enfants, mais sûrement pas au concours Tchaïkovski. Ah bon. Donc, je le connaissais, ça faisait déjà 4 ans et demi que j'étais dans la classe, donc je savais qu'il pouvait être comme ça. Néanmoins, j'étais quand même, mais en larmes au bout de 2 heures, et puis j'ai pris mes partitions, je dis bon, écoutez, bon, ça va très bien, j'irai pas demain jouer, et puis au revoir. Et je m'en vais, il habitait une datcha magnifique. Et donc je suis parti sur le chemin, et je me souviens, il a couru derrière moi, il avait ramassé plein de branches de lilas, qui étaient dans le jardin, il est venu m'offrir une énorme germe de lilas, en me disant, je suis désolé, non, il faut absolument que vous jouiez demain, excusez-moi, c'est parce que je voulais que ce soit encore mieux, mais je sais que vous allez trouver la force, etc. Donc, bon, tout ça, c'était pas facile quand même à gérer. C'était pas toujours l'attitude qu'il fallait pour qu'on se sente en confiance.
Nous écoutions successivement Stanislav Neuhaus sous les propos de Brigitte Angerer dans le prélude en Ré majeur opus 23 numéro 4 de Rachmaninoff et après le maître, l'élève dans l'Alborada del Gracioso de Maurice Ravel, extrait des Miroirs sous les doigts de Brigitte Angerer enregistré à l'occasion du concours Tchaïkovski de Moscou en 1974 dont elle fut, je vous le rappelle, lauréate. Brigitte Angerer, vous avez donc travaillé avec Stanislav Neuhaus jusqu'à sa mort. Il a été votre unique professeur?
Oui. J'ai pas commencé ma carrière avant sa mort. J'ai resté avec lui jusqu'en janvier 80, où là, il est mort d'une manière tout à fait inattendue, puisqu'il était très jeune, il avait 52 ans. Et à ce moment-là, je suis rentré en France. Mais j'avais auditionné l'année d'avant pour Karajan, qui m'avait engagé à la Philharmonie de Berlin. Donc j'avais eu un prix à Reine Elisabeth, donc j'avais déjà des concerts, des choses comme ça. Mais mon idée, ma ligne de vie, c'était la Russie, retourner à chaque fois en Russie, travailler avec lui, le voir, lui parler, et puis vivre en Russie. Enfin, je voulais bien venir faire quelques concerts, mais il fallait pas que ça me prenne trop de temps par rapport à ma vie russe. Et puis, bon, janvier 80, il est mort. C'était d'une seconde à l'autre, on dirait, sans rien qui puisse annoncer cela. Et donc là, ça a été le gouffre devant moi, parce que je savais plus du tout ni quoi faire ni où vivre. Enfin bon, évidemment, je suis rentré en France et pendant quelques semaines, je voulais même plus toucher mon piano. Je me disais que j'allais tout abandonner. Je voulais plus jouer. Parce que le piano me rappelait, évidemment. Me le rappelait. J'avais plus envie de piano, plus envie de musique, plus envie d'émotion. Et puis, au contraire, après, je me suis jeté dans mon travail et dans la carrière aussi. Voilà.
Nocturne en ut mineur opus posthume de Frédéric Chopin, interprété par Brigitte Angerer. Alors, autre rencontre, Brigitte Angerer, il fallait quand même oser contacter le maestro Karajan alors que vous aviez finalement très peu d'expérience à ce moment-là.
J'aurais jamais pensé à ça, c'est ma maman qui a pensé à ça. Après que j'ai eu mon prix au concours Anne-Elisabeth, j'avais enregistré un disque, mon premier disque. Et maman me dit, mais tu devrais l'envoyer à Karajan. Je dis, mais pourquoi pas à Dieu? Et pourquoi pas? Je vois pas pourquoi Karajan s'intéresserait à écouter mon disque, mais c'est ridicule. Mais non, il faut que tu lui demandes une audition, il faut absolument qu'il t'écoute. Je dis, mais pourquoi moi il va m'écouter? Mais quel, je trouvais ça prétentieux. Et elle me dit, mais non, mais de toute façon, il faut auditionner pour des chefs d'orchestre, donc autant aller directement à celui qui est le plus important. Et finalement, elle avait pas tort, parce que finalement, il a accepté de m'auditionner, que je suis sortie de cette audition, je suis sortie de l'audition avec une date, un engagement. C'est-à-dire, c'était pas, on va vous écrire dans une semaine ou dans 10 jours, j'avais l'engagement en sortant de l'audition, ce qui était quand même merveilleux. Et après, j'ai auditionné aussi pour Daniel Barenboim, qui avait l'Orchestre de Paris à l'époque, et qui m'a engagé tout de suite avec l'Orchestre de Paris, et voilà, donc c'était...
À partir de ce moment-là, le métier était sur les rails.
Oui, et à partir de ce moment-là, d'autres orchestres et d'autres chefs m'ont engagé, mais au départ, c'est vrai que pourquoi engager tel jeune artiste plutôt que tel autre? C'est très difficile pour les jeunes.
Vous vous installiez à ce moment-là dans un répertoire où vous continuiez à jouer ce qui était important pour vous, le répertoire qui vous semblait
je
important.
Je n'ai jamais pu jouer une note de quelque chose qui ne me plaise pas. Vraiment, ça m'est arrivé parfois dans les concours d'être obligée d'apprendre une œuvre que j'aimais pas.
Oui.
Et j'ai un mal fou. Je veux dire, ça rentre pas. Ça rentre pas dans ma tête, ça rentre pas dans mes doigts, ça rentre pas. Ce qui ne passe pas par le cœur, ça rentre pas. Je sais que c'est mon incapacité. Je ne peux pas me forcer à apprendre quelque chose.
On pense à quoi ou à qui dans ces moments-là? On pense au compositeur, on pense au public et à ce qu'il va penser de vous?
Il faut pas. Il faut pas penser au public, il faut pas penser à ce qu'il va penser de nous, il faut pas penser qu'il faut absolument qu'il nous aime, c'est pas bon. Parce que tout ça fait qu'on va faire des choses qui sont pas vraies pour plaire ou pour... Faut pas. Il faut justement accepter l'idée qu'on peut ne pas être aimé, qu'on peut ne pas aimer votre interprétation, qu'on peut... Ça fait rien. C'est ça que vous voulez, c'est ça que vous voulez exprimer à ce moment-là. Et je crois qu'il y a que là qu'on a une vérité, qu'on trouve un bonheur et une raison de faire ce métier. On ne fait pas les choses pour plaire aux autres. C'est une mauvaise raison, toujours.
C'est comme une quête spirituelle.
Oui.
Un travail sur soi, de réflexion, d'approfondissement, d'acceptation de ce qui nous plaît moins.
D'acceptation de ce qui nous plaît moins, d'acceptation de ses défauts aussi. Et puis de moins se regarder, je crois. Parce que je crois que si on veut plaire aux autres, alors on passe son temps à se regarder, on passe son temps à se juger. Et dans ce cas-là, on est à côté de l'œuvre, on n'est plus dedans.
À quel moment le sablier s'est retourné pour vous?
Je sais pas.
À force de trop souffrir?
Peut-être, oui. Peut-être, oui. À un moment donné, on se dit, mais c'est pas ça.
Avec Karajan, par exemple, qu'est-ce que vous aviez joué pour...
C'est lui qui avait décidé. Il avait décidé que je serais invité pour jouer le dernier concerto de Mozart, le 27e. Et je veux dire, ça me faisait spécialement peur. D'abord parce que je le jouais pas, il était pas à mon répertoire, mais il était pas question de lui dire « Non, j'aimerais bien jouer autre chose ». Ensuite, parce que c'est quand même un des concertos les plus... où on est le plus dénudé, je dirais. Vraiment, c'est une des œuvres les plus impalpables, les plus difficiles à exprimer, surtout lorsqu'on est jeune. Mais bon, j'avais pas le choix, c'était ça. Et finalement, ce n'est pas lui qui a dirigé ce concert, c'était Zubin Mehta. Et Zubin Mehta m'a ensuite invité à New York à faire mes débuts avec le New York Philharmonic, puisque c'était son orchestre. Enfin voilà, donc ensuite les choses se sont enchaînées comme ça.
Comment parlait-il de musique, Karajan?
Il pouvait donner des images. Par exemple, il me disait à Malaï, parce que j'avais travaillé, il m'avait invité à venir travailler le concerto de Mozart avec lui un mois avant le concert à Berlin, à venir à Salzbourg, et il avait passé 2 heures avec moi à travailler sur le concerto. C'était merveilleux, c'était un moment...
Rien que vous et lui.
Rien que moi et lui, dans une pièce comme ça, en travaillant. Il avait beaucoup d'humour. Il pouvait donner des images, par exemple, en disant « ça, il faut le jouer comme si on a un pied dans la rue et l'autre sur le trottoir. » Bon, il parlait énormément de pulsations aussi, de rythme, de jamais perdre ça. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a tendance un tout petit peu à s'arrêter devant chaque fleur, comme ça, sur le chemin de forme, d'opéra. Il parlait, évidemment, puisque c'était un concerto de Mozart, évidemment, il a parlé beaucoup d'opéra.
Thank you.
notre document que nous a confié Brigitte Angerer avec les qualités et les défauts de la prise de son. C'était le deuxième mouvement du concerto numéro 27 de Mozart, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Zubin Mehta, avec bien sûr Brigitte Angerer en soliste.
Ainsi se referme le premier volet de la mémoire retrouvée que Gaëlle Le Gallic avait consacrée à la pianiste Brigitte Angerer en 2003. Nous retrouverons la suite demain. D'ici là, cette archive est disponible à la réécoute et au podcast sur le site francemusique.fr à la page des trésors de France Musique. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Béatrice Trichet pour la réalisation en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.